Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici R du Bois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc en Diois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Adèle Collard. Bonjour.
Bonjour.
Adèle Collard, vous êtes ici pour nous parler de votre activité pâtissière. Vous avez ouvert un atelier de confection qui s'intitule La Matisserie, sur la route du col de Rousset.
Exactement, à Die.
Alors, ce désir de s'installer à Die, d'ailleurs, pour vous, vous êtes ici depuis un moment déjà, de toute manière.
Oui, on s'est installé à Die il y a 10 ans avec mon mari et notre premier enfant. Mon deuxième, il est né à Die, à la maternité de Die. Et s'installer à Die dans la Drôme, c'était un projet familial. On avait tous les deux un travail qui n'est pas lié à ce territoire. Et moi, j'ai longtemps réfléchi sur comment poursuivre mon travail de théâtre, parce que moi, j'étais metteur en scène de théâtre, enfin, je le suis. Et en fait, j'ai réfléchi à différents modes d'implantation. Je voulais d'abord faire du théâtre dans le cadre de l'éducation. Je me suis formée à ça. J'ai réfléchi aussi à faire de l'agroforesterie au fur et à mesure, en vivant ici, en m'imprégnant de la nature et d'une agriculture aussi raisonnée, bio, etc. Et puis finalement, j'ai abouti à la pâtisserie, qui pour moi est aussi un moyen de refaire le lien avec ma culture hongroise. J'aime beaucoup la nourriture et j'ai toujours eu envie de faire un travail manuel. J'ai jamais eu l'occasion. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui moi, me relie aussi à... Voilà, comme je fais une pâtisserie naturelle et bio, ça me relie à la nature, à des choix écologiques et à la fois personnels, culturels.
Votre activité, donc, ça vous ramène un peu aussi à ce pays, la Hongrie. Ces pâtisseries, d'ailleurs, vous faisiez déjà rêver à cette époque?
Oui, oui, oui. J'ai toujours aimé faire à manger. Ça fait partie de beaucoup de ma vie. Et la pâtisserie, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris avec mes grands-mères. Mes deux grands-mères, différemment, étaient des pâtissières, mais comme toutes les femmes paysannes qui confectionnaient leur pain, leur gâteau. Et puis, c'est vrai que dans ma culture, les enfants sont un peu des rois. Voilà, on a été toujours gâtés par mes grands-mères, à nous confectionner les meilleures bouchées. Chez nous, le foie gras, c'était pour les enfants. Les gâteaux, c'était tous les jours pour faire plaisir aux enfants. Il y a quelque chose de très, Mitteleuropa, dans cette manière de vivre. Et puis, j'ai confectionné avec elles. Ça faisait partie, voilà, enfant, voilà, comme à l'époque. On était tout le temps avec les adultes. On ne jouait pas au Lego, on jouait à faire les activités des adultes avec eux. Voilà, donc je suis très attachée à cette histoire de grand-mère. Et puis, j'aime particulièrement la nourriture, mais c'est vrai que la pâtisserie, il y a quelque chose que je trouve très féminin, que je trouve très lié à l'enfance. Et qui je vois aussi, en travaillant sur le marché de Die, les gens s'arrêtent parce qu'ils ont quelque chose de tellement fort et profond qui les attire avec le sucre, parce que voilà, ça nous rattache à des choses fortes de l'enfance. Et voilà, moi, ça fait aussi mon lien à ma culture. Il y a des choses que j'aime beaucoup, beaucoup dans la pâtisserie hongroise. J'ai pas encore tout fait, tout réalisé, mais j'essaye par exemple de faire des babka, qui sont des brioches d'Europe centrale. Alors babka, c'est polonais, mais c'est une manière de confectionner des brioches un peu différemment qu'en France, qui permet une grande richesse de garniture.
Vous avez un atelier qui s'appelle La Matisserie d'Adèle. Pour vous, c'est un rêve. C'est aussi donné à préparer pour les enfants.
Non, pas du tout. Moi, je me suis beaucoup occupée de mes enfants. Et enfin, si j'entends bien ce que vous vouliez dire, c'est que je ne travaille pas...
Par rapport à votre souvenir d'enfance,
oui, ou voilà,
les
ça.
Parents, tout était préparé pour les enfants. Cette idée de matisserie, c'est un peu la même idée aussi.
Oui, pour moi, c'est une manière aussi de me mettre en lien avec les gens. J'avais très envie d'avoir une activité où je m'enferme toute seule dans mon labo et je bricole dans mon coin et je réalise des rêves. Mais tout en étant en lien avec les gens, comme pour toute création, et le partage de la nourriture, c'est un lien. Et les adultes, c'est des grands-enfants. Tout le monde a un enfant en lui. Je pense que je suis en lien autant avec les enfants qu'avec les enfants dans les adultes.
Alors, il y a ce titre aussi, ce nom, La Matisserie d'Adèle. Pourquoi ce M ?
Parce que il y a deux choses. Au moment où j'ai arrêté le théâtre, j'étais dans des projets d'éducation pour travailler avec des communautés de femmes, un peu dans une idée féministe de communautés de femmes qui ont subi des violences, etc. Donc j'avais une démarche un petit peu féministe dans le théâtre, dans l'activité artistique. Et je ne voulais pas tout à fait laisser ça derrière moi. Je suis toujours très préoccupée par ces questions-là. Et deuxièmement, quand je suis arrivée, donc c'était vraiment un coup de tête, hein, un été, pendant les vacances, je me suis réveillée et j'ai fait un rêve dont je ne me souviens plus. Mais la conclusion de ce rêve, c'était évidemment, il faut que je fasse de la pâtisserie. Et ça s'est très, très vite réalisé. J'ai fait un CAP à Livron et tout s'est bien enchaîné. Et quand j'ai fait cette formation et mes stages professionnels, j'en ai fait 4, dans 4 entreprises différentes, très différentes, je me suis quand même rendu compte que, un petit peu naïvement et de façon un peu... J'étais un peu étonnée de voir que, tiens, même la pâtisserie est un domaine où les étoiles sont quand même beaucoup portées par les hommes. Et j'ai trouvé ça m'a fait quand même sourire et me dire, tiens, je ne peux pas ne pas voir ce détail qui n'est pas qu'un détail. Voilà. En cuisine, je le savais... voilà, ça laisse comme la pâtisserie, ça laisse comme aussi une ambiance assez militaire. Et puis la vraie pâtisserie, c'est comme fait par les hommes, comme la vraie cuisine est faite par les hommes. Et voilà, je me suis dit, je peux pas laisser passer ça.
Alors l'univers de votre pâtisserie, de votre atelier, qu'en ressent-on ? Quelle émotion en avons-nous ?
L'émotion que les gens me renvoient, c'est plutôt quelque chose de rassurant pour les gens, quelque chose d'attirant, quelque chose qui les rend curieux. C'est quelque chose aussi qui... ça déculpabilise aussi les gens, parce que comme je fais une pâtisserie que j'essaie de désucrer beaucoup, de travailler avec des produits 100% bio et j'essaie de trouver le maximum de produits locaux, les gens ont envie de se faire plaisir et en plus ça leur permet de se dire tiens, je participe aussi à une économie et une écologie. Et puis voilà, ça déculpabilise. Les femmes se disent, tiens, c'est peut-être moins gras, c'est moins de sucré. J'essaie d'utiliser des farines alternatives, des sucres alternatifs. Et puis, je n'ai pas encore tout mis en place dans ce que j'ai envie de réaliser. J'ai envie aussi de proposer des pâtisseries sans gluten, sans lactose, vegan, en fonction des commandes. Il y a beaucoup de demandes et les gens sont... Ça manquait, voilà. Ils sont contents de découvrir ça.
La Matisserie, c'est un lieu de rencontre aussi. Est-ce que cet atelier, là où vous créez, le public peut venir voir comment s'opère le travail ou est-ce qu'il y a des moments d'échange aussi avec peut-être un café ou un thé pour discuter ?
Alors, pas vraiment.
Non, c'est vraiment l'atelier de travail.
Non, c'est vraiment mon atelier de travail. C'est sur mon terrain, c'est là qu'il y a ma maison. C'est possible de venir récupérer les commandes. Et c'est vrai que j'adore, à ce moment-là, prendre un petit moment avec les gens, s'ils ont le temps de prendre un petit café, parce que c'est aussi un moment de se rencontrer quand c'est possible. Mais pour moi, le vrai lieu d'échange, c'est quand je suis sur le marché. Alors cet hiver, je n'ai pas pu y être beaucoup, mais j'espère au printemps, je vais pouvoir commencer à revenir bien plus régulièrement. Et le marché, c'est vraiment un endroit d'échange, de discussion, de parole. Quand je suis dans mon atelier, je travaille, voilà, je suis très concentrée. Ce n'est pas évident de trouver quand même le temps condensé, concentré quand on a des enfants, une vie de famille. Donc quand j'ai le temps de travailler, je suis très concentrée sur mon travail. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de travail.
Les journées sont grandes, tôt?
Oui, voilà, quand je fais les marchés, je commence tôt et je finis tard. Les premiers marchés que j'ai faits, je ne me suis pas couchée. Donc, des fois, j'ai enchaîné 24 heures de travail parce que je mets un peu la barre haute. J'ai envie de faire proposer des choses un peu variées aux gens. Et aussi, je commence. Donc, même si j'ai dans les entreprises où j'ai pu être en stage, je suis très reconnaissant à eux parce que vraiment, c'est ce que j'ai appris aussi. C'est l'efficacité, c'est la rentabilité du travail, c'est comment on travaille en série, en chaîne, etc. Donc ça, c'est très, très pratique. Mais n'empêche que c'est un atelier que j'ai créé récemment, que je dois aussi prendre la main de cet atelier-là. Donc pour le moment, ça me demande encore beaucoup de travail. Et puis il y a beaucoup de travail invisible. Le travail, tout ce qui est autour, tout ce qui est les commandes, les choix des recettes, le travail. Alors je suis bien aidée parce que je fais partie d'un coopératif qui s'appelle GRAP, Groupement Régional Alimentaire, qui se situe à Lyon, mais qui ont un bureau à Die. Donc j'ai cette chance de pouvoir participer à un projet plus grand que ma matisserie, qui est comme un projet de création d'emplois qui m'aide aussi.
D'ailleurs, c'est en m'intéressant à Grappe que j'ai découvert votre activité sur le site internet. Vous avez ce souvenir d'enfance qui vous a amené à revenir vers cette pâtisserie, cette matisserie. Vous avez certainement aussi déambulé un peu à travers l'Europe et goûté aussi leur pâtisserie. Est-ce que vous vous êtes enrichi de tous ces domaines? Est-ce que vous êtes même très intéressé au point de connaître les recettes de toutes celles-ci?
Ah oui, je crois que ça, c'est avant même évidemment d'avoir imaginé ma vie de pâtissière, c'est juste une obsession toute ma vie. C'est-à-dire que quand je voyage dans toutes les villes, je trouve les pâtisseries. À Istanbul, j'ai pris 5 kilos en 10 jours. J'ai mangé les meilleurs baklava à la pistache de ma vie, c'est inimaginable. Évidemment, l'Europe centrale, c'est très riche en pâtisseries. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est quand on voyage en Europe centrale aussi, que ce soit en Tchéquie, en Pologne, en Roumanie, il faut quand même essayer de rentrer dans les maisons, de rencontrer les gens, parce que les meilleurs pâtissiers ne sont pas dans les pâtisseries. Dans les pâtisseries, souvent, on fabrique des choses
Standard,
c'est pas du tout des choses qu'on fait à la maison. Donc il faut pas hésiter d'aller rencontrer des grands-mères, des gens, de faire des liens, ou aller retrouver les restaurants un peu atypiques qui recherchent un peu les cuisines de maison. Mais voilà, c'est quelque chose que j'adore et oui, culturellement, j'aimerais bien aller aussi plus loin. C'est sûr que la pâtisserie du Proche-Orient, tout ce qu'il y a aussi en dehors d'Europe, c'est très riche. Mais j'ai aussi, avant de commencer à faire la pâtisserie, mon premier projet, c'était de faire un livre de pâtisserie, justement, sur des femmes pâtissières. Parce que quand même, même en France, les femmes pâtissières, elles arrivent quand même sur le devant de la scène. Et il y a maintenant des champions du monde de la pâtisserie femmes depuis 3-4 ans. Des femmes ont pu se libérer des grandes maisons comme La Durée, etc. et qui ont créé leur propre pâtisserie. Donc il y a des femmes que je respecte beaucoup, qui font un super travail. Claire Essler, Claire Damon, Jessica Préal, Pato, et puis j'en oublie, qui font un très beau travail. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire un livre de recettes de voyages en Europe centrale. Justement, rentrer dans mon pays, rentrer un peu dans les environs et aller glaner des recettes, des rencontres avec dans les campagnes, avec les grands-mères ou des grands-pères, enfin les gens qui pâtissent, plutôt quand même des femmes évidemment, mais aussi aller rencontrer d'installer, pourquoi pas, les Claire et les Jessica à Paris et d'avoir ces paroles de pâtisseuses, de matisseuses à recueillir dans un livre pour rendre hommage aussi à ces femmes qui ont cette envie qui prend quand même souvent racine un peu au même endroit.
Est-ce que, si je comprends bien, vous vous êtes promené à travers l'Europe à la rencontre de pâtissières, hein. C'est important pour vous que ce soit des femmes, ou alors vous avez aussi rencontré des hommes pâtissiers?
Alors, moi j'aime beaucoup rencontrer les femmes. Je trouve que quand on est dans ces communautés de femmes, on partage quelque chose de très précieux. Il y a une parole et des envies qui se libèrent, qui sont très intéressantes. Après, évidemment, j'ai rencontré des hommes pâtissiers. Mon stage principal pendant ma formation, c'était avec Bastien Girard, qui est un champion du monde de la pâtisserie en 2017. Il a ouvert sa pâtisserie qui s'appelle Intense à Tournon-sur-Rhône. Voilà, c'est un très grand pâtissier qui est tout jeune, hein, qui a plus de 10 ans de moins que moi, et qui est quelqu'un de très doux, très humble, très sympa, ou qui m'a heureusement prise dans son entreprise comme stagiaire. Et j'ai beaucoup appris de lui, parce que c'est un très, très grand pâtissier, et j'aurais jamais, jamais, jamais sa technicité. En France, comme dans tous les pays, évidemment, les pâtissiers, c'est une formation qu'on commence à 15 ans, on est apprenti, c'est vraiment, on commence au bas de l'échelle, et on monte tranquillement... j'aurais jamais l'expérience de ces pâtissiers et la technicité de ces gens-là. Je suis une glaneuse, je suis très, très heureuse d'apprendre. J'étais très heureuse d'apprendre des choses de lui, et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup.
Être pâtissier ou matissière, c'est être plein de douceur aussi.
J'espère. J'espère. La vie, elle est faite quand même de tout à la fois. Je crois que la pâtisserie, elle vient adoucir justement la dureté de la vie.
Vous êtes arrivée en France un moment, toujours sur cette quête de la pâtisserie, et là, vous vous êtes arrêtée.
Oh, moi, je suis venue il y a 25 ans. Je suis venue bien, bien longtemps avant les idées pâtissières. Il y a 25 ans, j'ai fait des études... J'étais passionnée par la littérature française et la langue française. C'était une envie très folle de passer du temps à Paris. Vous savez, quand on vient d'un pays communiste, moi j'avais 13 ans à la chute du mur. Oh, la France, ça me faisait rêver. Et à 18 ans, quand j'ai passé mon bac, la première chose, c'était je suis partie à Paris pour faire jeune fille au père. C'était le seul moyen pour moi de pouvoir passer beaucoup de temps en France et à Paris, à visiter tous les musées, faire toutes les rues de Paris à pied, etc. Et après, donc, j'ai fait des études de lettres françaises en Hongrie, et puis j'ai poursuivi en France, j'ai fait des études de lettres modernes, d'études théâtrales, et puis j'ai rencontré mon mari pendant ces études-là, voilà, il y a 25 ans.
Vous êtes destinée un temps donc au monde du spectacle.
Ah, c'était mon métier principal, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, oui. Oui, oui, j'ai fait les études théâtrales à la fac d'Aix et puis le conservatoire de Marseille. Et c'était une grande aventure parce que c'est quand on fait du théâtre, on fait tout en fait. On fait à la fois l'éclairage, comédien... Voilà, j'ai beaucoup aimé ce parcours où on touche à tout, on fabrique tout soi-même, tout en collectivité. Et c'était très riche, voilà, ce parcours en partant de Marseille. Et puis après, j'ai travaillé un peu partout. Mais j'aime beaucoup ce côté artisanal aussi de ce métier-là, où on est toujours proche des gens et toujours en collectif. Mais c'est vrai que j'ai eu besoin aussi, après une longue période collective, d'être un petit peu toute seule.
Cette activité du théâtre, c'est du théâtre principalement dans lequel vous y étiez. Et il y a cette communauté. Hein, j'ai connu ce type de compagnie plutôt au Mans, par exemple. En parenté, le théâtre du Radeau. Voilà, François Tanguy est parti il y a quelques, ouais. mois, quelques oh, semaines.
Ouais. Ouais. Grande tristesse, ouais.
Vous y êtes passé à ce moment-là aussi, à la Fonderie, au Mans?
Non, je l'ai vu dans des échanges. J'ai vu ses spectacles, mais non, je ne l'ai jamais rencontré. Mais c'était un très grand homme de théâtre, ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est une grande perte.
Oui, je me souviens de lui jouant de l'accordéon à 4h du matin sur l'île du Lido à Venise.
Oh là là.
Et puis, donc, déjà, est-ce que ce théâtre, pour vous aussi, c'était partager de la douceur aussi avec un public?
Ah non, le théâtre, c'était vraiment autre chose. C'était justement oser aller dans la dureté du monde, dans la douleur, dans l'expression, pour aller dans les choses qui sont haut en couleur, d'oser vivre avec ses tripes et d'oser parler de tripes. Voilà, c'était plutôt le contraire.
C'est un théâtre militant?
Militant, voilà. J'ai fait des choses différentes. Évidemment, j'ai rencontré, en fonction aussi des metteurs en scène avec qui j'ai pu travailler à l'époque où j'étais comédienne ou assistante. Mais finalement, je me suis vraiment dirigée, à la fin de mon travail, vers un théâtre plutôt documentaire, donc, qui était très en lien avec une situation sociologique particulière et emmener le spectateur dans une expérience entre le documentaire et la fiction, dans un parcours où physiquement il est impliqué, etc.
C'est un peu comme le théâtre forum?
Alors, c'est en lien. Voilà, moi, j'ai appris une méthode qui est la cousine de Théâtre Forum, qui s'appelle TIE, en anglais, Theater in Education. C'est une branche qui vient de Birmingham et qui est très, très développée. Étonnamment, un des pays qui est le plus développé, c'est la Hongrie. Donc, j'ai appris dans mon pays cette branche qui est un théâtre très engagé. Mais j'ai pas fait ça, mais j'étais très inspirée de ça. Oui, en effet.
La Drôme, vous l'avez découverte récemment ou alors vous y étiez déjà passé quelques fois
C'était mon mari, il est des Hautes-Alpes. On a vécu à Marseille et à Paris pendant 20 ans à peu près. Et on a essayé de trouver, quand notre premier enfant est né, on s'est dit, c'est plus possible de vivre à Paris. C'est pas possible de respirer cette air et de pousser la poussette sur les boulevards Voltaire. C'est un cauchemar. C'est impossible. C'est fini. Voilà. Et il faut se sauver de là. Et on s'est dit, mais il faut qu'on trouve le paradis. Et on a eu de la chance parce qu'un jour, quelqu'un nous a dit, dans une soirée totalement au hasard, « Ah, mais je connais un coin de paradis, tiens la clé, va 15 jours chez moi, va visiter. » Et on est venu, on a trouvé un coin de paradis.
Et c'est là que vous avez passé un temps pour réfléchir avant de créer cette matisserie, ou alors pour vous, c'était déjà à dessein?
Non, j'ai pris vraiment mon temps. Parce que d'abord, j'avais très envie de prendre mon temps avec les enfants. Le choix économique et écologique aussi de venir vivre dans le DIY, comme beaucoup de gens le font, hein, on n'est pas les seuls. C'était aussi une manière de se donner du temps, de se donner ce cadre. Dans ma culture hongroise, les femmes restent 3 ans à la maison avec les enfants, à peu près, voire plus. Moi, j'ai toujours connu ça et moi, j'ai jamais compris pourquoi en France, le féminisme, ou je sais pas, les volontés des femmes, c'est quand même majoritairement toujours à remettre les enfants à 2 mois à la crèche. Ça me paraît. J'ai un peu du mal à comprendre comment on en est toujours là, même si c'est important que les femmes puissent travailler et que tout le monde puisse faire des choix. Mais pourquoi ce choix majeur? Pourquoi le système économique impose ça? Ça me paraît un petit peu. Enfin, moi, j'ai pas pu en tout cas ingurgiter ça. Et j'avais besoin de créer mon propre cadre. Et mon mari était très, très accompagnant là-dedans. Et on a pris le temps, on a donné le cadre. Et je crois que les enfants nous remercient.
Donc cette matisserie est arrivée aussi après une formation et puis ensuite avoir pratiqué au sein d'entreprise. Comment s'est constituée ensuite votre proposition pâtissière, qu'est-ce qui vous a amené à produire? Et puis ensuite, je reviendrai à sa distribution.
Oui, c'était très important pour moi de créer une activité à l'échelle humaine, de pouvoir travailler toute seule et d'arriver à travailler, de pouvoir fournir une quantité de travail qui puisse comme à créer une entreprise qui soit vivable et en même temps qui soit dans une grande simplicité de proximité avec les gens, qui me permet de... l'acquis, c'est de pouvoir produire, proposer du bio. Voilà, c'est une prise de position quand même forte et importante pour moi. Et aussi de pouvoir travailler avec une économie de prix aussi. Voilà, je me suis dit, si je travaille toute seule, si je n'ai pas plus de salaire à sortir, si je investis le moins possible, donc j'ai mis un an à trouver tout mon matériel d'occasion pour pouvoir investir le moins possible. Et j'ai trouvé heureusement le GRAP qui m'aide, qui m'accompagne et qui me donne aussi une structure derrière forte qui permet justement aux petites activités de survivre et de pouvoir proposer quand même des produits à un prix compétitif, parce que je ne peux pas proposer des pâtisseries individuelles à 10 euros comme ça se fait à Paris, même si ce serait peut-être le prix juste. Mais donc je baisse énormément mes prix, je travaille sur les marges pour que ce soit accessible aux gens ici. Et aussi grâce à ce collectif, ce coopératif, j'ai des prix négociés, donc je peux avoir accès à des matières premières comme un gros, comme une société. Je, normalement, toute seule, je ne pourrais pas négocier des prix pour pouvoir ensuite revendre derrière mon produit transformé à un prix accessible. Donc ça, c'est une grande chance, c'est une collaboration, une combinaison. C'est ce qui permet que, en ayant une petite activité à taille humaine et l'échelle humaine individuelle, je puisse quand même fonctionner.
La confection de ces pâtisseries nécessite de la matière, que ce soit les farines ou d'autres ingrédients. Pour cela, vous allez au travers du paysage pour essayer d'y trouver quelques matières ou quelques fleurs ou quelques arômes aussi.
Oui, alors j'aime beaucoup travailler avec les fleurs comestibles. Sandra, que les Diwa connaissent bien sur le marché dit, qui est une grande spécialiste des fleurs, m'aide beaucoup là-dessus. Je les achète des plants, j'ai un grand jardin, donc je peux cultiver mes fleurs. Je cherche aussi avec Frisou, j'aimerais bien collaborer avec elle pour tout ce qui est plantes aromatiques. On est riche ici en plantes aromatiques. Je vais travailler avec le mililo pour remplacer la vanille. Voilà, je fais des choix comme ça pour ne pas aller de l'autre côté de la terre pour trouver des parfums. Et je pense que les gens ici comprennent aussi cette démarche. Moi, j'essaie de trouver des producteurs de fruits, il y a la farine locale, il y a quand même pas mal de choses qui sont accessibles localement et ça permet aussi de faire le lien et de rencontrer que ce soit des paysans ou des producteurs locaux.
Est-ce que vous proposez aussi des pâtisseries véganes ?
Je commence. J'ai beaucoup de demandes et j'aimerais beaucoup répondre à ça. C'est très technique. Je viens de faire un petit tour à Marseille dans une pâtisserie dingue qui s'appelle Au Fond. Je fais de la pub pour les copains à Marseille qui propose une pâtisserie végane à mourir. Ça m'a donné énormément envie. C'est délicieux.
La place du beurre est importante dans la pâtisserie. Justement, est-ce que c'est difficile de trouver une alternative, qu'elle soit en saveur ou en onctuosité ?
Le beurre, c'est le plus facile. Le beurre, c'est le plus facile parce qu'en matière graisse végétale, sans huile de palme, on trouve des bons produits et ça peut être français. Donc ça, c'est pas le plus compliqué. Pour remplacer la crème déjà, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut remplacer la crème pas de crème de soja la plupart du temps. Donc voilà, là, il faut trouver évidemment une bonne qualité de produit. Et puis il y a la technicité. La pâtisserie, c'est très, très technique. Donc on travaille en pâtisserie classique beaucoup avec la pectine, la gélatine, toutes ces choses-là. Et donc, en pâtisserie végane, eh bien, il faut trouver les alternatives avec l'agar-agar, le gomme de guar, tous ces produits qui ont du coup des prix beaucoup plus élevés. Donc, c'est un équilibre à trouver sur les mélanges des matières. Et puis, des fois, il faut aussi oser renoncer à une esthétique, à un résultat. Comment a-t-on ça dans une pâtisserie? Voilà, je rentre chez Pierre Hermé à Paris, mais c'est très joli. Ben, peut-être que moi, je vais dire, ma pâtisserie ressemblera plutôt à une pâtisserie de Otto Lenghi, avec le côté gauche qui va être un peu plus brinque-ballon, et puis la crème qui sera étalée plutôt à la grande cuillère que tout nickel, mais pour obtenir une meilleure qualité gustative et qualitative.
Pour vous, ce laboratoire, c'est un lieu de recherche aussi, de découverte?
Ah, complètement. Pour le moment, justement...
C'est une activité qui vous prend beaucoup de temps, toujours aujourd'hui?
Énormément.
Du matin au soir?
Oui. Oui, ça fait partie... En fait, je crois que c'est aussi mon activité d'avant qui ressurgit. Je suis beaucoup dans la recherche, je passe énormément de temps à chercher dans les magazines, dans les livres. Je regarde ce qui se fait. Je cherche des goûts. Je suis en lien avec mes souvenirs. Je suis beaucoup en communication. Je remplis un cahier. Je parle avec les gens. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment comme goût? Quels sont leurs goûts d'enfance? Je fais des liens. Donc, ça fait partie. C'est un travail. Je pourrais presque passer ma vie à ça. Donc, il faut que je fasse gaffe quand même de pouvoir passer de cette étape de recherche à de la réalisation et à l'expérimentation. L'expérimentation, ça prend aussi du temps parce qu'on rate. Voilà. Et puis, j'ai pas le niveau de tous les pâtissiers que j'ai pu rencontrer. J'ai fait une année de formation, parce que pour les adultes, c'est une année de formation. Et j'ai fait les stages, et puis j'expérimente, et puis j'ai ma manière de concevoir. Heureusement que je suis bien accompagnée, que j'ai Il y a Maison Oiseau à Recoubeau, qui est un endroit incroyable, Julie Charnay, qui a créé un lieu de magasins, d'objets chinés, de produits artisanaux, et a créé un salon de thé, un salon d'atelier artistique avec son compagnon. Donc un lieu multifonction où on peut se nicher près du feu et elle prend mes gâteaux. Donc les week-ends, on peut manger mes gâteaux là-bas. Voilà, elle m'accompagne beaucoup. On a démarré aussi ensemble à peu près. Donc elle est très patiente avec moi. On s'accompagne comme ça. Maintenant, il y a la Carline aussi qui prend mes gâteaux. Ça me soutient aussi beaucoup. Et ça permet aux gens aussi de découvrir et d'avoir une confirmation aussi sur l'origine des produits, etc. Ça rassure les gens.
Il y a des jours d'arrivée à la Carline, par exemple, pour vos pâtisseries?
Pardon, j'ai pas compris.
Vous alimentez au quotidien ce rayon pâtisserie à la Carline, ou alors vous avez une ou deux journées par semaine?
Alors, pour le moment, on a commencé à Noël. C'était deux fois par semaine pour la période de Noël. J'ai proposé des babkas de Noël et des cakes au Noël. Là, au mois de janvier, j'ai proposé les galettes. Voilà, ça a bien marché. Et pour la suite, il faut qu'on travaille. Les pâtisseries fraîches, je ne peux pas encore les proposer parce qu'ils ne sont pas équipés pour. Donc, il faut qu'on trouve les créneaux. En tout cas, les gens répondent bien, ils demandent, ils sont contents de trouver le produit. Donc, j'espère que cette collaboration pourra continuer, oui.
Justement, je viens à cet aspect. Actuellement, vous produisez des pâtisseries avec des produits classiques, hein, les produits laitiers, ou alors vous avez opté pour une plus grande part au végétal à 100%?
Je ne vais pas passer à végétal à 100%. Moi, j'aime le beurre, j'aime la crème, je suis baignée, j'aime bien me baigner dedans. Par contre, j'ai très envie de proposer les alternatives aux gens. Je propose du sans gluten, je propose du sans lactose, je ne ferai jamais du 100% vegan, je pense. Mais j'aimerais beaucoup proposer du 100% vegan aussi. Je pense que c'est plutôt sur commande ou je vais voir avec le temps. Pour le moment, j'ai beaucoup d'envie et je n'arrive même pas à réaliser un dixième de ce que j'ai envie. Donc, il faut que je fasse attention avec mes promesses. Mais je navigue aussi, en fait, avec l'envie des gens. En fait, toutes les semaines, au départ, je pensais pouvoir proposer une carte fixe. Et puis, j'ai eu tellement de demandes que finalement, j'ai eu envie de répondre aux demandes et aux envies des gens qui m'entourent, ceux qui sont enthousiastes, qui m'accompagnent dans ce début de projet. Et j'ai envie de leur faire plaisir. Et puis, je me rends compte aussi que moi, ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime, c'est le lien avec les gens. Et c'est ça qui me permet aussi d'avancer et de créer.
Je voulais cet aspect 100% végétal sur le... dans le sens de la conservation des productions, des produits. Est-ce que, quand ce sont des produits à 100% végétal, est-ce qu'il y a une plus grande amplitude de conservation dans le temps que des produits organiques qui se dégradent? Non, il n'y a pas de différence.
Je ne crois pas, parce que, évidemment, l'œuf, c'est quand même un produit très critique. Hein. Il faut faire très, très attention. On a des réglementations importantes avec l'œuf.
Qu'est-ce qui remplace l'œuf en vegan?
Alors, il y a un produit que je trouve hyper cher, qui est une espèce de composition de d'amidon, de fécule, de protéines, de haricots, de jus de haricots, des choses comme ça, des lécithines naturelles, végétales, etc. pour le jaune d'œuf. J'ai essayé d'étudier la question. Moi, je trouve le produit alternatif qui est déjà composé extrêmement cher. Je trouve que c'est encore une business qui est un peu dangereux. Donc, je ne sais pas encore. Par contre, de façon plutôt très pragmatique, moi, je n'ai pas très envie d'appliquer le côté vegan à une recette, plutôt de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai comme matière première ? Plutôt local, plutôt économique, et qu'est-ce que je peux composer avec ça pour les véganes. J'ai pas très envie de me dire, tiens, je vais acheter à 16 euros le litre le produit qui remplace le jaune d'œuf, enfin, ça me fatigue.
Et puis la pâtisserie, bon, c'est de la gourmandise. Et à l'heure actuelle, le mouvement, les corporations de boulangerie sont un petit peu aux abois, hein, du fait de l'augmentation du coût de l'énergie. Est-ce que cela impacte aussi votre activité?
Bien sûr. Oui, bien sûr, ça impacte. Après, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai cette chance de... J'ai mon atelier dont je suis propriétaire. Je n'ai pas de location. Je n'ai pas d'employé. Et donc, je pense que c'est un peu ce qu'on a vu aussi avec les dernières années, hein, depuis le Covid et puis avec tout ce qui a suivi les différentes crises, c'est que plus on est local, plus on est à petite échelle, plus on a une chance de survivre. Et notamment, ben, le prix de la farine, on a vu que ça n'a pas impacté ceux qui travaillent avec les produits locaux, parce que finalement, ben, Jean-Marie Verdet, il produit sa farine, quoi qu'il en soit, et qui est très bonne, et qui est locale, et Ukraine ou pas, sa farine est vendue ici. Donc, voilà... C'est aussi ces choix-là qui ont du sens. Pourquoi on fait tous les boulangers, tous ces gens dans le Diwa aussi qui font du pain tellement bon. Pour moi, c'est des modèles. Voilà, le pain de Raphaël, pour moi, c'est extraordinaire sur le marché. Il fait le meilleur pain du monde. Il est là une fois par semaine avec une certaine quantité de pain. Et je pense que rien ne le fera bouger pour qu'il fasse plus de pain ou qu'il aille vendre ça ailleurs. Et je l'admire pour ça. Et je pense qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'artisans comme ça.
C'est votre point de vue également?
Oui, oui, j'aimerais bien.
Juste de pouvoir vivre?
Ah ben oui, c'est une activité. Oui. Il n'y aura pas une antenne Matisserie d'Adèle à Paris, non.
La distribution, donc vous citiez la Maison Oiseau, la Carline, et puis votre stand sur les marchés, pendant les saisons de beau temps plutôt, et d'autres moyens aussi de découvrir ce que vous produisez.
Je travaille sur commande, donc les gens peuvent me passer une commande, que ce soit pour le samedi ou le dimanche, même pour quatre. Je travaille toutes les semaines, j'essaie de proposer plusieurs produits. Les gens peuvent m'appeler le vendredi, le samedi, tiens, dimanche finalement j'invite les copains, j'ai envie d'avoir un gâteau, qu'est-ce que tu as? Je suis sur Instagram et Facebook, j'aimerais bien quand même créer un site internet pour que les gens puissent un peu mieux se renseigner sur moi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je fais aussi des événements, des mariages. Donc, l'avantage des mariages, c'est que les gens se préparent très longtemps à l'avance. Donc, je sais un an à l'avance qu'est-ce qui va se passer, ce que les gens demandent. Et c'est très intéressant aussi parce que ça permet de préparer un produit bien plus recherché, où je travaille aussi plus l'esthétique, faire quelque chose d'aussi un petit peu exceptionnel. Voilà. Après, comme je suis en certification bio avec Alpes Contrôle, j'ai aussi un nombre de recettes limité parce qu'on a c'est les recettes aussi qui sont certifiées par l'agriculture biologique. Donc, je travaille avec le nombre de recettes pour le moment que j'ai créé et que j'essaye de composer avec.
Ça veut dire que toutes vos créations ou vos travaux de recherche, vous ne pouvez les commercialiser sous la dénomination bio que si elles en ont l'agrément, donc une certification. Ça demande un investissement de cet aspect-là de la production bio par rapport à la certification.
Oui.
Ça demande des moyens.
Oui, ben ça a un coût, bien sûr. On paye, c'est un coût annuel pour le contrôle, pour la certification des recettes. Donc ça a un coût d'être en bio. Donc c'est quelque chose, quand même, je me suis posé la question au début. Parce que, justement, de le dire, je ne peux pas dire que je fais du bio si je n'ai pas la certification. Mais les gens, comme ça se passe aussi, la commercialisation aussi se passe dans un réseau, les gens connaissent un petit peu la nature du produit. Et puis, après réflexion, je me suis dit, comme c'est important, parce que pour moi aussi, c'est important de savoir, quand j'achète un produit, je peux avoir un doute sur l'origine des produits. Les gens peuvent me raconter aussi des salades. Et puis, si j'ai envie de vendre aussi en épicerie bio, comme la Carline, il faut aussi que j'ai la certification. Et j'ai très envie de coopérer avec eux. Et finalement aussi, je me suis dit, c'est une transparence, c'est une affirmation, c'est un choix aussi à faire. Il faut après que, économiquement, moi, je me débrouille pour que je m'en sorte aussi avec cette certification qui a un coût, évidemment.
Pour le moment, ça peut aller, dira-t-on.
Comment ?
Pour le moment, ça va à peu près pour vous. Justement, je voulais revenir sur une idée aussi, c'est la tarification des productions. Lors de discussions, il y a une question qui se pose, et je crois que c'est appliqué à Diolofi. Il y a trois tarifs proposés aussi dans une production. Une qui est celle adressée à ceux qui en ont beaucoup de moyens, donc ils peuvent payer le prix fort et avec toutes les marges comprises. Il y a le prix standard, et puis après il y a le prix réduit aussi pour les faibles revenus. Ça, c'est une notion aussi qui vous interroge.
Ça m'interroge. J'ai rencontré des boulangers qui travaillent avec aussi l'idée de la solidarité, créer des prix solidaires, voilà, pour les aliments. Moi, j'en suis pas là parce que je débute et je suis petite. Voilà, il y a à Diolofi, j'ai rencontré une boulangerie, donc ils sont aussi dans Grappe où eux ils travaillent avec ces différentes tarifications. Et je trouve que cette caisse solidaire alimentaire, c'est une idée géniale. Elle est importante. Pour le moment, chez moi, ça se passe un petit peu de façon informelle. Je sais que si je connais des personnes qui me demandent des gâteaux, je sais que je vais appliquer des tarifs en fonction de... Mais c'est au feeling un petit peu. Et puis aussi, grâce au GRAP, justement, j'ai une structure. Je suis aidée là-dedans. J'ai une appli, j'ai une structure sur un calcul exactement de mon investissement, de l'amortissement de mon investissement, le coût que ça me coûte en électricité, en charge. Donc, je ne peux pas être perdante. Il faut que mon activité soit rentable. Il faut que mon activité soit rentable quand même. Ça, c'est la base. C'est la base de l'activité quand même. Donc, j'apprends. C'est quelque chose que j'apprends encore. Ouais.
Pour terminer l'émission, je l'illustre avec une partie musicale. Est-ce que vous auriez une proposition musicale pour finir cette émission ?
Je proposerais bien une chanson hongroise. Je vous écrirai le titre, ça va être plus simple.
Avec un auteur peut-être spécifique ou un chanteur spécifique.
C'est une chanson folklorique hongroise que j'aime bien, qui se chantait dans mon enfance. Voilà.
Eh bien, Adèle Collard, je vous remercie d'être venue sur RDWA pour nous parler de votre activité avec la matisserie d'Adèle. On n'a pas précisé le lieu où se trouve cette matisserie.
La route de Col de Rousset a dit, voilà, c'est mon atelier et on peut me contacter par téléphone, par Instagram, sur Facebook et trouver mes produits. Donc, comme on avait dit, merci pour votre invitation.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.